Amis de Radio Occitanie de la poésie, bonsoir. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous allons écouter tout de suite une voix que nous adorons ici. Il s'agit de la voix de Sandra Hurtado Ross. Sandra Hurtado Ross, qui publie aux éditions Trovavox de notre ami Gérard Zucchetto un album. Un album que véritablement, je crois qu'il est absolument nécessaire d'avoir dans sa discothèque. Alors Sandra Hurtado Ross, elle travaille avec Gérard Zucchetto et elle a enregistré cet album qui s'appelle Clamor, Clamor a los vientos de amores, Clameur au vent des amours, où elle chante des poèmes, elle a mis en musique des poèmes de grands auteurs, de grands poètes espagnols, mais également, puisqu'il s'agit de Federico García Lorca, de Miguel Hernández, mais également d'auteurs occitans, comme Alem Sur Garcia ou Aurelia Lassac. Et bien entendu, des textes de Gérard Zucchetto. Alors, et Antonio Machado également, hein, j'avais oublié. Et puis, de notre ami, bien sûr, Franck Bardou, voilà, pour le côté occitan. Donc, il y a là 17, 17 poèmes chantés par Sandra Hurtado Ross. C'est aux éditions Trovavox. Vous pouvez vous renseigner sur ces éditions et commander sur un site www.art en minuscule trait d'union troubadour troubadour.com. Je répète www.art trait d'union troubadour.com. Voilà, là vous aurez les renseignements sur cette publication que vous pouvez commander directement, soit en téléphonant au 06 08 33 56 44 ou par mail à Trobart. Alors, ça s'écrit TROBART Production, PRODUC. TIONS, Trobart Production, je le prononce à la française, @wanadoo.fr. En tout état de cause, si vous n'avez pas noté ces renseignements, elles seront prochainement sur notre site, les poètes tout attachés, point site, les poètes sans accent et tout attaché, point site, où vous aurez toutes les références de nos émissions, donc des livres et des albums que nous avons passés dans ces émissions. Voilà, alors on va commencer tout de suite par écouter de Sandra Hurtado Ross la Canción Vieja d'Antiocho, de la vieille chanson d'Antioche, de notre ami, le poète occitan, Alem Sur Garcia. Nous l'écoutons.
Thank you.
Et nous enchaînons maintenant sur un poème de Aurélien Lassac, Mes ferrailles sorgues. Voilà, je vous recommande donc d'écouter Sandra Hurtado Ross, qui se produit très souvent, bien sûr, en concert avec Gérard Zucchetto, le titre de son dernier album, Clamor, Clamor, a los vientos de amores, al vents dels amours. Voilà, Sandra Hurtado Ross. Et je voudrais poursuivre cette émission avec quelque chose d'assez inhabituel. Il s'agit d'un poète qui s'appelle Mathieu Baumier. Mathieu Baumier, vous pouvez voir ce que écrit Mathieu Baumier en allant sur ce site, cet excellent site de poésie qui s'appelle Recours au poème. Mathieu Baumier, c'est également un essayiste. Il est l'auteur de plusieurs essais, dont un des derniers, c'est « La démocratie totalitaire ». Ça avait paru aux presses de la Renaissance, chez Plomb. Et puis, également, il est romancier. Hein. Il a écrit le manuscrit « Louise B », ou « C'est aux belles lettres », ou « Les apôtres du néant » chez Flammarion. Et, évidemment, des ouvrages de poésie. Alors, il contribue à diverses revues intellectuelles et des revues politiques aussi, comme immédiatement La Sœur de l'Ange, La Nef, L'Atelier du Roman, La Revue de Deux Mondes, Recours au Poème, dont j'ai cette magnifique revue en ligne, L'Incorrect, etc. Et il vient de, enfin, il a fait paraître il y a quelques mois un essai qui est, à mon sens, un essai tout à fait remarquable, très courageux. Parce que bien, il brise quand même avec beaucoup de talent, mais beaucoup de fermeté et beaucoup de conviction. les idées reçues peut-être de notre époque. Cet essai s'appelle Voyage au bout des ruines libérales libertaires. Il est publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux et cet ouvrage vous coûtera 17 euros. Alors, il y a en filigrane, bien sûr, la mondialisation. C'est en effet cela, la victoire, ou plutôt la croyance en la victoire du monde maritime contre le monde terrestre, de la mer contre la terre. Hein. La terre, c'était des gens qui avaient les pieds sur terre. Et par contre, c'est le monde liquide, c'est le monde des gens qui se baladent à travers la mer, qui prennent évidemment, vont d'un océan à un autre et voyagent ainsi sur toute la planète. Alors de la société dite ouverte et liquide, hein, c'est ainsi que l'on a appelé cette société des gens qui vont d'un continent à l'autre, comme une poignée de main macronienne sur le réel enraciné. Les hommes liquides s'appellent entre eux les élites mondialisées, comme pour avouer innocemment le caractère sectaire de leur conception du monde, cette même conception qu'il s'est agi de nous imposer. Mais, cher ami, nous dit Mathieu Baumier, nous n'en voulons pas de votre conception du monde. Que pensiez-vous? Nous sommes le peuple, voilà tout, ceux qui ne sont rien de votre point de vue. Donc vous voyez, il y a là, chez Mathieu Baumier, poète, quelqu'un qui a toujours la profondeur des choses, qui ne s'en laisse pas compter, bien sûr, comme tous ces poètes qui sont tout sauf des gens éthérés et rêveurs. Eh bien, Mathieu Baumier nous donne là un pamphlet qui ne mâche pas ses mots, où l'on découvre le gouffre abyssal entre les idéaux tout faits venus d'en haut et la réalité à terre, notre réalité, de plus en plus pauvre, isolée, moribonde. Voilà, je vous recommande donc de lire cet ouvrage. Je vais simplement vous lire les dernières pages. C'est l'épilogue qui s'appelle De la nécessité de la limite. Hein, nous sommes une société qui se veut sans limite, où le mot limite est devenu un mot obsolète, en tout cas pour ne pas dire obscène. Hein, nous devons avoir de limites nulle part. Régis Debray avait écrit un très bel ouvrage aussi sur justement s'insurgeant contre cette notion qui effectivement peut paraître séduisante mais qui est une vraie catastrophe, avec un ouvrage qui s'appelait L'éloge de la frontière, éloge des frontières. La frontière, ce n'est pas un mur, c'est simplement un filtre. On peut passer d'une frontière à l'autre, mais on peut passer dans certaines conditions et en montrant patte blanche. C'est avec ces filtres que se font les passages et non pas en supprimant les frontières. Donc ça revient très vite à mettre des murs ailleurs. Et voilà que Régis Debray et Mathieu Baumier se rejoignent totalement sur cette notion de limite qu'il est temps peut-être de restaurer. Car le mouvement de 68, dans son utopie exubérante et rigolarde, avait pulvérisé. Eh bien, voilà ce que nous dit Mathieu Baumier. Les textes et symboles prévenant l'homme de la nécessité de la limite ne manquent pas et nous devrions avoir appris. En termes de tradition chrétienne, l'Ancien Testament regorge de références à la nécessité de la limite. Que l'on pense au temple de Salomon, par exemple, et aux deux colonnes situées à l'entrée de son parvis. Elles sont mentionnées dans le livre des Rois, les Chroniques et le livre de Jérémie. Situées à l'entrée du parvis du temple de Salomon, et non du temple lui-même, ces deux colonnes ne soutiennent aucun édifice matériel, elles ne sont pas colonnes de soutènement du temple. Elles sont beaucoup plus que cela, les deux colonnes dites du temple de Salomon, soutenant le vide au-dessus de la tête des Hébreux, c'est-à-dire le plein du ciel et de la voûte étoilée, sont avant tout le symbole du passage entre l'extérieur de l'enceinte du temple et l'intérieur de cette enceinte. Le temple est encore au-delà, à l'horizon. Franchir les colonnes emmène dans l'enceinte sur le parvis, devant l'entrée du temple de Salomon. Elles sont une borne, la limite, entre le profane et le sacré, entre ce qui est du domaine de l'existence et ce qui est du domaine de l'être. Elles indiquent sept limites. La tradition biblique considère que ces colonnes furent construites par les enfants de Lamech afin de résister au déluge prononcé par Yahvé et que les connaissances des hommes furent gravées le long de leur fût. Sans quoi, elles eussent été perdues lors du déluge, malgré l'arche de Noé. La légende est contée par Flavius Joseph, et comme souvent, en son symbolisme, la légende dit beaucoup du réel, de notre réel, croyant en l'illimité, en règle générale, et en un possible illimité de ce que nous sommes en particulier. Nous substituons l'existence banale à l'être. Nous substituons ce qui sort d'eux, ce qui se montre, c'est l'étymologie d'exister à ce qui est. Le vrai est devenu un moment du faux. Nous confondons ce qui est et ce qui existe, et nous croyons en l'illimité de l'existant quand seul ce qui est au-delà de la limite. Cet horizon, c'est justement ce qui nous attend par-delà les ruines libérales et libertaires. Un après qui commence maintenant, l'heure est venue du retour. Mathieu Baumier voyage au bout des ruines libérales libertaires chez Pierre-Guillaume Deroux. Je voudrais maintenant aborder, peut-être si nous avons le temps, deux poètes, mais en tout cas au moins un poète atypique, le deuxième l'est tout autant, si nous avons le temps, sinon nous en parlerons une autre semaine. Il s'agit de Claude Queyot. Nous avons eu le plaisir de faire une émission ici avec Claude Queyot. Mais je veux, dans cette rentrée-là d'octobre, lui rendre particulièrement hommage et dire vraiment comment des poètes comme Claude Queyot sont marquants dans l'histoire de la poésie de notre pays. Et combien ils nous sont utiles, Claude Queyot. Alors, Claude Queyot, pour le connaître, vous savez, il a créé en 2008 les cahiers de la rue Ventura. C'est une revue littéraire qui publie des dossiers sur les écrivains, qui publie de la poésie, bien sûr, des pages d'autobiographie et des textes sur les arts. Je vous invite donc à vous abonner éventuellement à cette revue, Les Cahiers de la rue Ventura. Claude Queyot, qui avait collaboré d'ailleurs avant au nouveau revue suivante, le nouveau recueil, Arpa, Poésie première, 7 à dire, Jointure, Inédit nouveau, Multiple, de notre ami Henri Heurtebise, pour lequel d'ailleurs il a fait au Cahier de la rue Ventura un dossier, il a consacré un dossier à Henri Heurtebise. Littéral, au coin de table, Encre Vive, bien sûr. Encre Vive, donc, qui a publié son 451e numéro d'Encre Vive, a ce parcours littéraire atypique de Claude Queyot. Et donc, je vous invite à vous procurer. Alors ça vous coûtera 6,10 €. Il suffit d'écrire à Encre Vive, 2 allée des Allobroges, 31 770 Colomiers, pour vous procurer ce numéro. Donc sur je dirais la carrière entre guillemets. Je sais que c'est un terme qui ne n'aimerait pas du tout. Donc ce parcours atypique de ce poète, cet auteur Claude Queyau. Publication, dit Claude Queyau dans ce qu'il m'a envoyé, publication qui annonçait une fin après un essai vain, cette fin de quelque chose est enfin venue, dit-il, en 2018. Bon, alors, je n'aime pas beaucoup les fins et j'espère bien sûr que Claude Queyau n'a pas cessé d'écrire en 2018, qu'il continue, et de toute façon, ce serait scandaleux s'il arrêtait. Ce parcours atypique, Claude Queyau dit qu'il a toujours eu avec le temps des rapports difficiles. Le temps, celui qui passe et nous vole nos jours. C'est Yves Le Conseiller qui écrit ceci. L'année du Front Populaire, donc 1936. Enfance silencieuse pendant la guerre, son père est prisonnier en Allemagne et ne rentrera qu'en 1945. Une enfance de petits pauvres qui détestent l'école. Il trouve toujours des raisons pour ne pas s'y rendre. Il fera même l'école buissonnière. Oui, il déteste l'école, mais paradoxe, il y passera 40 années de sa vie, puisqu'il sera professeur de lettres, bien sûr. Allez comprendre. La poésie, la première fois, c'est à 13 ou 14 ans, a-t-il écrit quelque part, avant d'ajouter, je suis sûr que c'est dans ce travail souterrain au profond de moi-même que j'ai commencé d'habiter ma langue. L'étape suivante, c'est à 15 ans, la découverte des écrivains dont les livres ne cesseront d'accompagner ces jours. Livre de Gide, de Roger Martin Dugard, de Colette, d'Aragon, d'Éluard, de René Guicquel. Et beaucoup d'autres, bien sûr. Avec une tendresse du jeune homme rêveur pour les livres de Georges Duhamel, de Gilbert Sesbron. Un peu plus tard, il y aura Mallarmé, Paul Valéry, Saint-Jean Perse, avec toujours le souci de rencontrer ceux dont il aime les livres, pour l'échange et pour vérifier, dit-il. Vérifier quoi? Il ne dira pas. C'est ainsi qu'adolescent, il passe une journée au Tertre, à Bellême, avec Roger Martin Dugard. Un peu plus tard, des heures avec Marcel Arlan à la NRF. Un après-midi avec Henri Troyat, rue Bonaparte. Il reçoit Hervé Bazin dans sa classe au Pont de Cé. Il est reçu chez lui à Angers plusieurs fois. Il visite Julien Gracq dans sa maison des bords de Loire à Saint-Florent-le-Vieil. Il converse avec Jacques Brosse en Sarthe, d'abord, puis dans sa maison près du site magdalénien. J'ai beaucoup de chance, se contente-t-il de dire lorsqu'on s'étonne. Voilà. Tous ces auteurs, maintenant, semblent un petit peu oubliés. Enfin, j'espère quand même pas que l'on oublie Julien Gracq. Mais enfin, Henri Troyat, Marcel Arlan, Roger Martin Dugard, on le lit plus trop maintenant. Hein. Je ne sais pas si les jeunes le lisent, mais à cette époque-là, c'était quand même les vedettes, entre guillemets, les stars littéraires de l'époque. Est-ce la chance ou autre chose qu'il se refuse à préciser? Lorsque Jacques Brenner accueille ses textes et poèmes dans sa revue Les Cahiers des Saisons, qui paraissent aux éditions Julia, au sommaire, voisine, avec Claude Caillot, voisine, Philippe Jacotet, Jules Supervielle, Henri Thomas, André Dautel, Jean-Louis Bory, Bernard Noël, Jean-Louis Curtis. Et en 1971, il publie Steph et les Goélands, c'est un roman aux éditions Julliard. L'année suivante, le livre reçoit un prix de l'Académie française et des extraits paraissent dans Océan d'Armorique, une belle anthologie aux éditions Hachette. La carrière littéraire de Claude est-elle lancée? On pourrait le croire, mais non. Après réflexion, j'ai décidé, dit-il, de cesser de publier pour faire autre chose. C'est quand même curieux, mais il n'en dira pas plus. Il tiendra 27 ans, brûlant en 1995 des milliers de pages de son journal. Une connerie, reconnaît-il aujourd'hui, mais sans trop se lamenter. Ce n'est qu'en 2001 qu'il propose à Michel Causel les 16 pages de Cheminement, qui sera la 281e parution de la revue Encre Vite. Un début à 65 ans. Pour suivre sa deuxième carrière littéraire, il ne vous reste plus donc qu'à vous procurer ce livre, d'abord son anthologie, mais je vais en parler dans quelques secondes, mais également le 451e numéro d'Encre Vive, dédié exclusivement à Claude Queyot, ayant pour titre un parcours littéraire atypique avec un très beau, une très belle couverture où on voit ce beau visage de Claude Queyot, couverture que l'on doit à Louis Hubert. Donc, je vous invite à vous procurer ce numéro d'Encre Vive pour en savoir un peu plus sur Claude Queyot et bien sûr d'acheter aux éditions du Petit Pavé, ça vous coûtera 15 euros, d'acheter son anthologie poétique, car il a fini quand même celui-là, ce bourg qui décide tout d'un coup d'arrêter de se consacrer aux autres. En définitive, il y a chez lui une générosité qui est presque une générosité maladive chez Claude Queyot. Il y a beaucoup de poètes qui sont des réalistes, qui sont atteints de cette maladie de la générosité vis-à-vis des autres, qui sont vraiment dans l'altruisme quasiment inconscient, mais irréfragable. Claude Queyot, anthologie poétique, 1956-1970, et donc une large période de vide, et 1999-2018, c'est aux éditions du Pavé. Le livre vous coûtera donc 15 euros. Voici ce que il dit dans cette quatrième de couverture. Lecteur, lectrice, qui me faites l'honneur de vous pencher sur mon livre, sachez que celui-ci sera pour moi le dernier en poésie. D'où le besoin d'un retour sur tout ce que j'ai écrit, qui puisse s'appeler poème pendant ces 60 années. En réalité, deux périodes séparées, que je vous ai lues, donc ces périodes 56-70 et 99-2018, par un inexplicable silence de 27 ans, lequel je ne tenterai pas d'expliquer. Je ne suis pas tenant de l'inspiration sauvage, non maîtrisée, ni prêt à l'autosatisfaction. L'écriture de la poésie est un travail, et mes ouvrages restent longtemps sur l'établi. Je ne les abandonne que lorsque je pense leur avoir donné la forme la plus convaincante. Pour cette anthologie, le choix a été douloureux et salutaire. Beaucoup de textes sont restés sur le bord du chemin. Au terme de ma recherche en poésie, j'ai tout testé, le classique, le vers dit libre, le verset, la prose. Il me reste l'espoir d'être lu, compris et peut-être d'exister dans un futur où je ne serai plus. Alors nous partageons bien entendu cette volonté que Claude Queyot, il faut absolument lire Claude Queyot, et puis je le rassure, en tout état de cause, je souhaite à Claude Queyot qu'il continue et surtout une longue vie. Mais je le rassure, les poètes, et je pense avec émotion, Michel Baglin, au moment où je parle, les poètes sont immortels. Et cette anthologie qui est très bien faite, cette anthologie, bien entendu, il fallait la faire parce qu'il va lui survivre. Et c'est cette anthologie qui va faire de lui serait un poète qui va passer dans l'intemporel. Pour le cahier, pour le cahier, anthologie poétique. Je vais vous dire quelque chose. Alors, en vrac, poème avant le livre. Ce poème, dit-il, venu avant que l'auteur lui l'audace de proposer un manuscrit complet à un éditeur, sont tous parus dans des revues. On trouvera là du classique, des vers libres, de la prose, bref, que le poète se cherchait un peu. On va l'écouter dans ce travail de recherche. Le travail du poète, justement, c'est le titre de ce poème. Miroir emprisonnant des ombres de silence, le jour se fait de gel où s'élève la voix. Elle parle de croire et c'est comme une enfance, douce à couvrir le cri silencieux des croix. Le jour est mort où se dessinait la fêlure, une voix trop habile à dénuder le mot. Mais qu'il écoute encore, la parole murmure, vague tendre au musoir, faible comme un sanglot. Or, voici que renaît le jour tremblé de givre. Un oiseau dans la vitre échappé de l'instant, un rêve de présence ou tenté de survivre, parole de jadis, de demain, de longtemps. Il neige sur la voix qui parlait de présence, transparence du mot, vide comme le temps. Qui es-tu, toi, le poète? Un néant qui se pense dans la vitre reflet de ton rêve dément. Le poème se pense, écrit avant que d'être, jaillit d'un passé d'ombre et d'un non-dit lointain, voix qui crie en silence ou pleure à la fenêtre de n'avoir pas à dire en un rêve incertain. Le poème revient d'un espace en lui-même, livré à tous les ciels, battu de tous les vents, dans une aube de sel où la main vide sème des mots enfouis avant de dire, avant le temps. Et le silence crève au clair de la parole. Un langage renaît, des mots qui n'étaient plus, il investit le temps que, lettre à lettre, il vole. Poème pour toi seul qui lit ces mots perdus. Alors, un peu plus loin. Des jours lointains qu'ils t'en souviennent et que tes bonheurs te reviennent, suce tes doigts comme autrefois, la confiture est sur le feu, le bois vive dans la cheminée, frotte tes mains comme jadis pour chasser la peine du jour. Tu ne sais pas, tu ne sais plus les pas que tu aurais à faire pour revenir. C'était la guerre. Et maintenant que le temps passe, sur tous les bonheurs à venir, écoute en toi, timide et lasse, écoute la voix du partir. Nous allons beaucoup plus loin maintenant, dans le temps, et nous arrivons à la longue route dans ce nouveau Encre vive. Les poèmes sont accompagnés de leur traduction en anglais par John Millard. On a gardé donc ici dans cette version, dans cette anthologie, donc bien sûr que la version française que je vais vous lire. Les peupliers suivent la rivière, penseurs sereins des mondes muets, fouettés de vent ou caressés par le soleil, ils sont vigies de l'inexplicable. Regardant les grands arbres élancés qui, en bas de la colline, dessinent le cours de la Taude. La place désertée s'endort dans le soleil, les maisons s'ennuient, un chat traverse le silence. Alors, 1976, dit-il, pendant la grande sécheresse, alors que nous habitions provisoirement, place de l'église à Sauvigny. Le jardin se cache dans la ville, derrière des murs de solitude. L'eau y cressonne dans la pénombre, sous la fontaine des amours mortes. tu marches encore dans le parc. Une autre époque t'accompagne, les canaris muets dans la volière, les roses éteintes dans le soleil, une ombre vieille murmure à ton oreille. Le chat se souvient, la glycine qui rongeait le mur, la table du petit matin, la vieille pour passer le temps. L'été, Madame L accueillait ses amis sur cette terrasse ombragée derrière la maison. Et l'on ne pouvait pas ne pas penser à Colette, que d'ailleurs Madame L aimait beaucoup. Un jour ou bien une nuit, c'est le 308e numéro d'Encre Vive, c'est ce cahier qui présentait des illustrations magnifiques à l'encre noire signées Marie-Thérèse Mécali. Pour accompagner les 15 proses serrées sur les pages de droite, il a proposé, Gloire Caillot, de brefs poèmes, clin d'œil en miroir, pour dire la mémoire lointaine. Tu as dit, il pleut. Une vieille marche dans les flaques. J'aime pas la pluie. Le feu est rouge dans l'eau du caniveau et ruisselle. Personne ne t'attend, dis-tu. Elle ne sait pas que j'ai depuis longtemps fermé ma porte au quotidien. Les autres ne me voient pas quand je passe dans la rue. Encore là? Disait ce qui arrivait. J'ai fait le vide dans ma mémoire. Oublié le bagage du temps qui colle à mes talons. Quand reviendras-tu? La pluie se faisait vieille sur le trottoir où elle marchait, tête baissée. J'avais fait provision de bonne volonté. Tu ne vas pas partir? Inquiète, soudain. La voiture. Des gerbes d'eau sale accrochées à ses roues. Un passant de la dernière attente. Ensuite, il faudra voir. La nuit peut-être ou... Tu rêvais, dit-elle. Accoudé au comptoir. Il est temps de rentrer. Pensive, devant son verre vide. Je n'ai rien oublié. Je marche. La voiture. Ce n'est pas la même. Il pleut dans ma vie ou dans une autre. Je ne parle pas. Les arbres. Ces gouttes dans le roulis du vent. Je ne bois que du silence qui me revient du temps passé. La vie s'écoulait une journée. Il pleut. Je marche. Je ne sais pas. Fais comme chez toi, dit-elle. Une porte claque. Ce n'est pas ici. La nuit tombe. Je ne vois plus ma main ni le stylo. Toujours à écrire, dis-tu. La maison se tait. Le jardin écoute la pluie gangrénée de silence. Les livres, dit-il, pour enfermer la vie. Du bureau au sémaphore où l'on guette les âmes. Les vents appelés de l'ouest pour des passages de saison, la maison refermée sur d'âpres confidences. Ma fille, nous avions partagé nos tristesses. Que le soir emportait à l'envers du décor, les chemins alentours saignaient jusqu'aux étangs. De grands bleus de prière s'échappaient aux églises. Il faudrait, dis-tu, étouffer les voix de ressemblance. J'appelle ta venue. Les lampes resteront allumées sur la nuit. Plume en main, je portais message aux revenants. J'ai quitté le péage aux portes des voyages. Le théâtre est fermé qui usait les années. Et les têtes se baissèrent au passage des voix. Petit, que sais-tu des mondes à l'entrée? Le corridor s'enfonce dans le passé, silencieux, gonflé de ténèbres, et les enfants ont peur que le bateau ne sombre dans les années. J'arrivais à l'improviste, quêteur de l'énigme, attentif aux voix qui traversent le temps. Saurais-je décoder le message du vent? La pluie passe par le regard. Aurais-tu encore des larmes pour l'absence? Ou bien ne te retourne pas sur les livres de l'aube, ma fille. Nous avons cheminé sous les arches de la forêt, la longue route, avec les étoiles pour viatique. J'ai beau te regarder, je ne vois que moi-même. Ne répondez pas si l'on m'appelle. Je ne suis plus d'ici. Ma voix s'est retirée dans le livre de l'heure. Patience, nous aurons encore des battues de silence pour retrouver les voix que nous avons perdues. Mais le livre se ferme sur des pages muettes. Il était de papier enlaidi par la guerre. Les portes ouvrent toujours sur l'énigme de l'heure. Mots du jour et de la nuit, classique poème. C'est paru aux éditions du Grill en Belgique. Et bon, c'est un recueil qui a été vite épuisé. Ce petit livre donc a été repris par les amis de la rue Ventura pour un tirage de 20 exemplaires. Voici un extrait. Il n'est Paris la nuit que pour tenir l'aube à distance d'être, craignant pendant que l'heure tourne d'avoir à se reconnaître dans cet homme à sa table assis. Or si je meurs, à laisser neige pour tout l'ex que mes vers transis, gravés sur des aubes de neige, sous la lampe veillante qui délimite l'espace où vivre, c'est dans la nuit, soudain jaillit du vide, un mot qui vous délivre. Texte en marge. Il affiche silence et l'aube se soumet. Une voix s'exaspère du fond de son néant. Le jour sera de rien, de paroles sans chair, de regards sans mystère, frontières sans province. Il s'habille d'attente, il fait choix de barreaux. La vie n'a plus de mots pour dire le présent. Il teste ses limites, l'aube n'y répond plus. Il tord de ses mains nues une peur orpheline. Il est enfin lui-même. Néant, l'ombre d'un songe, retrouve un horizon, repeuple son désert. Il va vivre à nouveau le cœur à la fenêtre. Il demande à renaître. Il est au point zéro. Les routes s'en désertent quand brille l'eau des pierres. Et clôture l'absence. Tout devient transparent. Il n'est qu'au fond de lui, obstiné, querelleuse, voit où passe la peur, une ombre qui se bat, et le présent qui monte, étranger, déconcerte, perdu, toujours en quête, qui doute de son ombre. Alors le vent se lève, dans sa tête et dehors, la dernière tempête. Il est seul à son bord, à chercher, il ne sait, demain vide tendu, à creuser des ornières devant des pas perdus. Il regarde la pluie, requiert un pan de jour, s'installe dans le temps, le silence interroge des traverses de pluie, revêt sa solitude, se retrouve, se fuit. Le sang bat dans le jour et le mot se libère. Ce n'était que l'ennui. Le mot parle. Il écoute la voix sourdre renaître. Il s'habille de pluie. Réinvente chaque heure. Autre est le même. Lui, il est tendresse, amour. Par sa voix, le ciel pleure. Il regarde la pluie, s'enfonce dans le temps et retourne à la nuit. Et pour finir, Je, tu, il, c'est 46 brèves proses parues en recueil dans une édition Tensing, c'était en 2016. Je marche dans la grande maison, désœuvrée, solitaire. Les fauteuils où personne ne s'assied poursuivent une étrange conversation. Vous me trouverez sans mal. Le bureau est au fond à droite. Vous ne pouvez pas vous tromper. Tout était là avant, sera encore après. Ce que pèse le temps sur mon épaule lasse, le dirais-je ? Rien n'est jamais acquis dans la parole des autres. Le bureau, peu à peu, s'est habillé de livres. Je vis dans le temps de bonnes gens ancrés dans l'heure et de l'autre qui était moi. Enfermé dans mes mots, mes phrases, mes délires, vous me trouverez, vous dis-je, à la croisée des chemins de l'intrigue et de l'absence. Est-il un jour où je n'ai pas sondé le lendemain des choses, l'avant de l'heure qui passe sur les voies, sur les pas, remontant à l'infini l'horloge de ma vie. Et le dernier, en vrac, ce sont des poèmes après le livre. Je vais finir sur ce texte. Le vieil homme se rappelle le petit livre couleur café, les poèmes bijoux aux rimes qui chantaient comme aux années noires de sa jeunesse, celle de Musset, dans la nuit de décembre. Les couches de jour accumulées étouffent le souvenir, un naufrage. À la pointe de la plume, perle une goutte de sang violet, le sang de l'enfance qui fuit. Comment savoir si ce cri doucement modulé comme une plainte est un poème, et le poème, une éternité à partager ? En d'autres temps, dans le petit livre aux rimes désuètes, précieuses, ces mots du jour et de la nuit, le poète les a tenus longtemps sur l'établi pour sonder le mystère de l'écriture, ajoutant, raturant, au point de ne plus pouvoir déchiffrer le grimoire. Le petit livre s'est vendu jusqu'à ne plus être. L'on en reste étonné. Peut-être faudrait-il y revenir pour multiplier le message, mais à quoi bon ? Il vit maintenant, d'or, sur les rayons de bibliothèques privées. Combien ? Une centaine, peut-être ? C'est le sort de la poésie de n'être lu que par quelques-uns. Des privilégiés, se dit le poète, pour se consoler. Voilà. J'espère qu'il a tort et que ce ne sont pas des privilégiés qui lisent la poésie, mais tout un chacun. En tout cas, c'est ce que nous, ici, nous nous efforçons vraiment d'inciter à faire. Claude Caillaux, Anthologie poétique, 1956-1970 et 1999-2018, aux éditions du Petit Pavré. Donc, merci Claude Caillaux d'avoir fait cette anthologie, elle nous est très précieuse. Et nous y reviendrons ici, à cette émission Les Poètes sur Radio Occitanie. En tout cas, merci de nous donner à lire cette anthologie, d'avoir ainsi sauvé une œuvre qui nous est chère. Ainsi s'achève l'émission Les Poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie. Et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.